Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Une production Binge Audio, évidemment.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table, édition spéciale paternité. Dans cet épisode, on va se pencher sur les raisons psychologiques qui font qu'en général, les pères ne s'investissent que très peu par rapport aux mères dans la parentalité. Pourquoi est-ce qu'une grande majorité d'entre eux continuent à privilégier leurs activités professionnelles au détriment de leur vie de famille ? Quels sont les ressorts, parfois inconscients, de ce choix ou de ce renoncement ? Mon invitée est la première psychologue que j'invite dans l'émission. En 30 ans de carrière, Sylviane Giampino a à la fois mené une pratique de clinicienne en écoutant des milliers de parents, des pères, des mères, des enfants dans des hôpitaux psychiatriques et des centres médico-éducatifs dans l'un des départements les plus pauvres de France, la Seine-Saint-Denis, puis dans son cabinet en libéral à Paris. Et elle a mené des enquêtes et des rapports pour l'Assemblée nationale sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Ce qui lui donne un double regard, thérapeutique, centré sur la psyché, l'individu, l'inconscient, et puis politique, sur les grands mécanismes collectifs du rapport entre les genres. Elle formule des analyses que je n'avais jamais entendues auparavant, par exemple sur l'hostilité paternelle, sur le désir d'enfant, sur le monde du travail et l'injonction à la réussite professionnelle des hommes. Et je commence par lui demander si en 30 ans de consultation, les questions que se posent les hommes sur leur paternité ont changé, et si oui, de quelle manière ?
Il se pose aujourd'hui les questions à haute voix. Là où il me fallait, il y a même 20 ans, prendre beaucoup de temps avec les pères pour qu'ils puissent parler de leur relation avec leurs enfants, aujourd'hui, ils en parlent plus directement, plus simplement. Et au cœur de leurs préoccupations, finalement, c'est un peu comme les mères il y a 20 ans, c'est peut-être que je suis trop absent, peut-être que je m'en occupe pas assez, etc. Elles ont intériorisé le reproche sociétal à l'égard des pères. Ça fait un petit moment que ce qu'il y a de contradictoire, c'est que les hommes se sont très sérieusement rapprochés dans la relation de parole, dans l'expression des affects de leurs enfants et de leurs enfants de plus en plus petits. Ils sont très proches de leurs nourrissons. Et de l'autre côté, pendant que s'opéraient tous ces rapprochements entre les hommes et les enfants, eh bien, il y a eu une recrudescence d'une attente sociétale du père à l'ancienne. Dans les années 90, au moment où les femmes investissaient vraiment la vie professionnelle à l'extérieur du foyer, mais où en même temps les crises de l'emploi, le chômage des cadres apparaissaient, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a fait appel aux hommes de plus en plus en leur disant l'autorité paternelle, c'est indispensable pour les enfants, etc. Et puis dans les années 2000, le sécuritaire était devenu une priorité.
Même au niveau donc national, même politique.
Même au niveau national, politique, sociétal. Et du coup, on en a appelé à cette autorité paternelle, à cette loi du père qui était censée tout régler. Et c'est là qu'on voit que, d'une certaine manière, les femmes ont, pendant des siècles, été soumises à des injonctions d'idéal de la maternité et de la féminité. Et les hommes se retrouvent soumis à ces mêmes injonctions au moment où ils sont de plus en plus prêts à devenir moins stéréotypés, justement, dans leur rapport aux enfants, notamment.
Et donc, c'est ce quoi les injonctions paternelles, à votre avis, aujourd'hui ? Les injonctions sociétales vis-à-vis des pères ?
Alors, vous avez bien sûr le père de magazine, le père des modèles d'innovation. C'est le père portant bébé en gloire. C'est le père qui est là à la sortie de l'école. C'est le père qui prendrait un congé parental. Voilà. Dans la réalité, les chiffres montrent que c'est pas du tout le cas. Mais malgré tout, il reste l'idée qu'un père devrait peser de tout le poids de sa distance, de son point de vue, avec du recul par rapport à l'éducation des enfants, et que c'est celui qui viendrait soutenir la fonction maternelle des femmes et taper sur la table quand vraiment les enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont insupportables. Et en fait, le père, on lui reproche d'être absent, mais on ne lui permet pas d'être présent. Et là, je fais référence à toutes les autres injonctions auxquelles les hommes sont soumis, qui sont des injonctions de dévotion au travail. Et puis, il y a aussi tout ce qui est injonction lorsqu'on est un homme actif à faire la démonstration de son pouvoir, de sa puissance, de son implication, je ne sais pas moi, politique, sociale, à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des modèles qui restent forts quand même.
S'il y a des attitudes, des discours qui ont changé par rapport à la paternité, les statistiques, elles bougent assez peu, en fait, en termes de répartition du temps domestique. Ça, on l'a beaucoup exploré dans l'émission, mais c'est à la fin, si on regarde dans les chiffres, dans le temps, qui s'occupe des enfants, très concrètement, qui s'occupe des tâches domestiques, on sait, donc on va rappeler quelques chiffres, mais on sait que les femmes se chargent en moyenne de 2/3 du travail domestique, ce qui veut dire que les hommes ne prennent en charge qu'un seul tiers, et que les 2/3 du temps de travail des femmes, en fait, c'est du travail qui n'est pas rémunéré, c'est du travail domestique, et 1/3 qui est du travail rémunéré. Pour les hommes, c'est le contraire, c'est-à-dire que eux, ils occupent le travail rémunéré et les femmes le travail non rémunéré. On sait aussi que matériellement, c'est intéressant de devenir père financièrement, et que par contre devenir mère, c'est une catastrophe financière et matérielle. C'est une enquête de l'INSEE qui date de 2009 qui montre que les femmes perdent 1/4 de leurs revenus salariaux 5 ans après l'arrivée d'un enfant. Pour les pères, ça change pas. Qu'ils aient 1, 2 ou 3 enfants, leur revenu reste stable, voire augmente. Et on sait aussi qu'il y a 40% des femmes qui déclarent un changement professionnel quand un bébé arrive. Et pour les pères, seulement 6%. Donc pour eux, ça ne change pas grand-chose. Donc on sait que les chiffres nous le montrent, que dans les familles, encore aujourd'hui, ce sont les mères qui prennent largement en charge les enfants, ce qui n'est pas rémunéré. Et à la fois, on entend de nombreux discours de pères qui disent que c'est important pour eux la paternité, qu'ils aimeraient s'investir plus, qu'ils aimeraient bien, mais ça ne bouge pas. Et vous, dans votre livre, vous avancez plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Vous dites que, certes, on peut se dire que peut-être les hommes ont un bénéfice matériel, en fait, à ne pas s'investir dans la vie de famille et tout, puisque de toute façon, ils s'occupent du travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres explications, en fait, à ça, que la plupart des hommes ne sont pas ni dominateurs, ni machos, ni misogynes, ni désintéressés par le sort de leurs enfants, mais que ce désir déclaré ne suffit pas. Donc je propose qu'on passe en revue les différentes hypothèses que vous avez formulées pour expliquer ça. Est-ce que c'est un manque de sincérité ? Est-ce qu'on peut se dire, en fait, les hommes disent qu'ils veulent s'investir plus dans la vie de leurs enfants, mais au fond, ce n'est pas vrai ? Est-ce que ce serait ça ?
Non.
Vous croyez pas à l'hypothèse du manque de sincérité ?
Non, je ne pense pas que les hommes qui disent qu'ils veulent s'investir auprès de leurs enfants soient des cyniques, ni des menteurs. Vous savez, il est ancien ce désir-là. Il y a 3 générations, les hommes disaient déjà qu'ils ne voulaient pas faire comme leur père, se retrouver vieux sans avoir vu grandir leurs enfants.
Mais pourquoi il y a un tel décalage entre les discours et les actes alors ?
Parce que d'une part, il y a des entraves internes, inconscientes, qu'on va peut-être balayer ensemble. Et d'autre part, il y a quand même des entraves externes en termes d'organisation de la vie publique, professionnelle et sociale.
Bon, alors, ces entraves inconscientes, vous avancez par exemple comme explication le fait que, au fond, les hommes continuent à prioriser la sphère professionnelle, que le problème, c'est la priorisation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire « ma priorité, c'est mes enfants, je ne veux pas choisir entre les deux », mais en fait, dans les faits, c'est toujours le travail qui priorise.
Oui. Au moment où il faut trancher, lorsqu'il y a une urgence, un enfant malade, une école en grève, une mère commence par se dire « mince, comment je vais faire pour mes enfants ?» Et un père, la plupart du temps, dit « mince, comment je vais faire pour mon travail ?» Ça, c'est des postures qui sont encore très vivantes. Alors, pourquoi les pères se disent d'abord « comment je vais faire pour mon travail ?» Je crois qu'il faut déjà se dire qu'il y a une transmission intergénérationnelle, ancestrale, où la virilité était clippée aux qualités professionnelles des hommes. un bon travailleur, un bon patron, enfin, quelqu'un qui faisait du bon boulot, c'était synonyme de puissance, de virilité, d'honnêteté, de noblesse à la limite. Et ça, ça se transmet. Or, aujourd'hui, les formes de travail se sont transformées. Le travail aujourd'hui n'expose plus les hommes, plus que les femmes, à lutter contre les éléments naturels, à faire des prouesses physiques, à risquer leur peau, hein, comme ça a été longtemps le cas. Aujourd'hui, le travail, il est beaucoup plus cognitif, il est beaucoup plus light sur le plan physique, donc être un homme ou être une femme, ça devrait permettre de faire les mêmes choses, les mêmes métiers et s'investir autant. Donc il n'y a plus d'indice de féminité ou de virilité raccroché à la puissance professionnelle. Mais il reste des traces dans la mémoire. Pour moi, c'est un syndrome, hein, la priorisation professionnelle. L'autre raison, c'est que, d'une certaine manière, être occupé par le travail ou préoccupé par le travail, parce qu'il y a le même réflexe chez des hommes qui travaillent très peu, finalement. Ce réflexe, c'est aussi ce qui leur permet de se tenir à distance de la dimension charnelle de la vie familiale. Dans l'espace de la maison, se traitent les matières du corps, se traitent la nourriture, les souillures. Et c'est là qu'on voit comment l'espace domestique, l'espace de la maison, est encore repéré par les hommes comme un espace féminin, même si les choses bougent encore, les hommes s'intéressent à la déco, font de plus en plus la cuisine, notamment quand il y a des copains. Mais quand même, ça reste encore, il y a des adhérences de vieux modèles.
Vous dites que le réflexe de priorisation professionnelle, donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une forme de symptôme névrotique. Comment ça se passe typiquement, la décision de prioriser son travail ? Concrètement, et c'est quoi le schéma mental typique qui va mener à cette priorisation ? C'est « Ah oui, mon enfant est malade, mais j'ai un dossier à terminer. »
Alors, je dis que c'est un symptôme névrotique parce que c'est dépassé, c'est inadapté. Les hommes sont inadaptés à la vie d'aujourd'hui quand ils gardent ce réflexe. C'est pour ça que je dis que c'est névrotique, tout simplement. Ce n'est pas un diagnostic. Hein. Le chemin par lequel ils passent, c'est très intéressant. C'est les hommes qui me l'ont expliqué, ça. Ils m'ont dit, on ne se met pas en situation de choix. S'il y a une urgence professionnelle, s'il y a une opportunité professionnelle ou s'il y a un risque professionnel, au regard d'une attente familiale, on ne va pas peser le pour et le contre. On va plonger, on va éviter de se mettre en position de choix parce que choisir, ça voudrait dire renoncer. Et le renoncement est une faiblesse. Et donc, ils foncent.
Oui, mais en fait, ils renoncent, du coup, à la vie familiale,
non,
au contact avec les enfants.
Non, ils ne pensent pas l'alternative de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à diminuer l'urgence familiale et à grandir l'urgence professionnelle dans leur représentation de la situation.
Mais les mères, par exemple, comment elles
réfléchissent
par rapport à ça ?
Elles font l'inverse. Il y a quelque chose. Alors, tout ça, c'est des généralités. Vos auditeurs, vous allez avoir des hommes qui vont vous dire « Non, mais chez moi, c'est l'inverse. » Mais quand même, globalement, les femmes ont tendance à surdimensionner la détresse de leurs enfants, les difficultés de séparation, la peur que l'enfant se sente abandonné, qu'il soit carencé, qu'il lui manque quelque chose, et les pères à sous-dimensionner les potentiels manques ou difficultés de leurs enfants. Alors, il est clair que ce mécanisme, c'est un balancier. C'est-à-dire que plus les pères sous-dimensionnent, plus les mères vont surdimensionner pour compenser, et inversement. Plus les mères disent « mais les enfants, ça va pas du tout, il faut que tu sois davantage présent, ils vont mal », plus les pères vont avoir tendance à vouloir rassurer en disant « mais ne t'inquiète pas, ça va pas si mal que ça, voilà, je vais aller faire du foot avec lui dimanche, ça va aller mieux, ça ira mieux lundi à l'école, quoi ». Mais quand même, sur un plan global, c'est deux tendances qui sont encore très présentes.
Donc c'est-à-dire que dans leur tête, ils ne renoncent pas ?
Non, ils ne renoncent pas. Ils ne se disent jamais, enfin, sauf les cyniques, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, ils ne se disent jamais, tant pis, mon fils est au bord de la dépression, ou il est en train de se faire éjecter du collège, mais c'est moins grave que de louper ma réunion. Par contre, J'ai récemment eu une situation où une femme venant à son rendez-vous chez moi a reçu un coup de fil de son mari qui lui a dit « Il faut que tu fasses demi-tour parce qu'à la crèche, ils ne nous prennent pas Edouard parce qu'il a de la fièvre. Et moi, je ne peux pas manquer ma première réunion rien que pour ça. » Et elle, elle avait un rendez-vous chez moi et derrière, son entretien annuel qu'elle avait préparé, évidemment, la moitié de la nuit qui précédait. Cette phrase « Je ne peux pas manquer ma réunion rien que pour ça », à savoir un bébé dans la nature avec de la température, ben voilà, il n'avait pas mis en parallèle les éléments pour évaluer la gravité de la situation.
Vous citez aussi l'exemple de ce dirigeant d'entreprise qui vous décrit ce mécanisme. En fait, il vous dit « côté boulot, le renoncement, c'est tout ou rien ». Soit on renonce, soit on renonce pas. Alors que le renoncement côté familial, on se dit bah non, mais en fait on a le temps. En fait, c'est plus diffus. En fait, la femme et les enfants pourront s'ajuster. Comme si c'était pas des vrais renoncements, en fait.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que la famille est une matière souple et que il y aura pas un couperet qui tombera. Les anxiétés, les angoisses professionnelles des hommes sont très puissantes et beaucoup d'hommes sont apeurés dans leur rapport au travail. Quoi qu'on en pense, et quelle que soit leur position hiérarchique.
Donc ça a à voir avec les normes de masculinité dans le travail, les normes d'être toujours un gagnant, les normes de jamais montrer de failles dans l'armure, les normes de surtout pas avoir l'air féminin ou efféminé. Ça met beaucoup de pression sur les hommes dans la sphère du travail, ce qui se répercuterait dans la vie de famille.
Oui, déjà il y a ça. Et puis, il y a autre chose aussi qui les fait hésiter, c'est que les hommes ont intériorisé le fait que le couple n'est plus forcément un couple à durée illimitée. Et ça fait quand même plusieurs générations que les femmes sont à l'origine des ruptures conjugales. Et donc, ils se disent que s'ils se mettent à investir, à renoncer, hein, pour reprendre le terme, à des promotions professionnelles, à de la brillance, à des challenges au profit de leur famille, et qu'il y a rupture, ils vont tout perdre. Ils auront tout perdu. Ils se disent que, en cas de séparation, les enfants, ce sont en général les femmes qui les récupèrent. Et même certains disent, si ça part en cacahuète, j'aurai plus rien.
Mais c'est comme une prophétie autoréalisatrice, en fait. C'est-à-dire que vous écrivez que c'est comme si le risque d'un échec amoureux et familial, c'était moins grave que celui d'un échec professionnel ou d'un renoncement professionnel. Mais du coup, en faisant ça, en fait, ça conduit tout droit à l'échec amoureux et familial et conjugal.
On touche là la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je suis assez désolée, moi, de voir quand même le nombre de ruptures conjugales qui ont lieu. Hein. Alors, non pas que je pense que les parents ne devraient pas divorcer. Je pense que la séparation et la liberté de chacun est quelque chose sur lequel on n'a pas à revenir. Mais ce qui est triste, c'est quand je rencontre des pères et des mères qui ont vraiment des choses à se dire et qui auraient pu poursuivre leur route ensemble et qui, finalement, ont craqué et se déchirent parce que la pression est trop forte, parce que les écarts entre les discours, les désirs et les réalités du quotidien sont trop grands, parce que les femmes et les hommes sont désynchronisés actuellement. Cette désynchronisation fait que le couple est la caisse de résonance des disharmonies et des rancœurs sociétales. Et donc, c'est quand même assez triste. Et aujourd'hui, le coût est élevé pour les femmes, on le sait, par les inégalités qui sont très bien décrites et que vous connaissez très très bien.
Donc, c'est des inégalités économiques, mais il y a aussi un coût, vous, que vous constatez, que vous avez nommé, qui est un coût psychique, en fait.
Oui, qui est un coût humain, psychologique. Ce coût humain, c'est que les femmes ne supportent plus, ne tiennent plus, elles ne tirent plus honneur à exercer cette fonction d'ajustement et de faire en sorte que tout tienne. Vous savez, il y a un autre phénomène nouveau, c'est que de plus en plus, les hommes sont les premiers à souhaiter l'arrivée d'un bébé dans le couple. Ça, c'est assez joli, finalement, de constater ça. Mais du coup, les femmes qui s'entendent dire par leur homme qu'ils veulent un enfant avec elles, le prennent comme une promesse de l'élever ensemble. Or, On sait que dans un couple sans enfant, les couples sont plutôt égalitaires. Avec un enfant, ça le reste à peu près. Mais dès l'arrivée du deuxième enfant, ça y est, ça se referme. Alors le troisième, n'en parlons pas. Et du coup, il y a une déception amoureuse d'une mère qui ne trouve pas son homme à ses côtés pour élever les enfants.
Ouais, ça me rappelle une conversation personnelle que j'avais eue avec une amie qui m'avait dit, en fait, on se faisait la réflexion que nous, on avait connu des pères, l'image de pères absents qui vraiment, franchement, s'investissent pas, voulaient pas vraiment des enfants, bon voilà, et que en fait, elle et d'autres amies, hein, quand elles ont rencontré des hommes qui leur disaient, je veux un enfant avec toi, j'adore les enfants. Elles se sont dit, bah super, du coup, il va s'en occuper. Et en fait, pas du tout. Elle a découvert que c'était pas je veux un enfant et je vais m'en occuper. C'était j'adore être père, j'adore avoir des enfants, mais par contre, j'aime pas du tout m'en occuper. Donc, c'est quelqu'un qui va déclarer, par exemple, oui, j'adore mes enfants, j'adore être père. Par contre, préparer les cadeaux pour les goûters d'anniversaire, ça m'intéresse pas. Savoir ce qu'ils mangent, ça m'intéresse pas. Les emmener à leurs activités, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc, il disait. Donc, en fait, c'est comme une
promesse non tenue.
Oui. Et une promesse complètement imaginaire et pas du tout concrète, en fait. Parce que bah, être père, c'est tout ça, en fait. C'est s'occuper très concrètement et très quotidiennement de la vie des enfants. De se préoccuper de savoir s'ils ont dormi, mangé, comment ils vont, comment s'appellent leurs copains, de quoi ils ont rêvé. Enfin, et de gérer l'organisation, quoi, de leur vie.
Oui, les femmes disent que les hommes adorent donner le bain à leurs enfants, mais c'est pas eux qui récurent la baignoire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de proposer quelques hypothèses pour aider les hommes qui souhaitent mieux aligner leur projet de vie, leur projet d'identité de père, leur désir hein, d'être le père qu'ils voudraient être, et puis les entraves qu'ils rencontrent pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils aillent mieux. Ça ne pourra être qu'au profit de leurs enfants et de leur compagne et de la société. Donc voilà.
Dans les hypothèses que vous formulez, alors il y a plusieurs hypothèses sur des choses inconscientes. Et donc j'étais très étonnée de lire ça, mais pourquoi pas. Vous dites que par exemple, il existe une rivalité assez fréquente des jeunes pères avec leurs enfants.
Oui.
Et que c'est beaucoup plus fréquent que ce qui n'y paraît. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette rivalité et comment elle se manifeste?
Les hommes qui en parlent bien disent, vous savez, c'est quand même pas facile de voir... à quel point elle est voluptueuse, de voir son regard lumineux comme ça pour notre bébé. À la fois, c'est touchant et elle me séduit. Et à la fois, j'ai l'impression qu'elle ne me regarde plus du tout comme ça depuis qu'il est là. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'état qu'on appelle l'état de préoccupation maternelle primaire à l'arrivée d'un nourrisson. Il y a une passion, en fait, entre la mère et le bébé. Et pour certains hommes, ça les inquiète un peu, parce qu'ils ont l'impression qu'elle ne va pas revenir vers eux, qu'elle est partie, que toute sa libido est partie ailleurs, quoi.
D'accord. Et donc s'il y a oui, cette rivalité.
Oui, si tout va bien, ça se résorbe progressivement. Il y a un autre point dont on parle peu, qui est l'envie d'enfantement chez les hommes.
Oui, donc en fait, on a beaucoup glosé quand même sur l'envie de pénis des femmes dans la psychanalyse, chez Freud et tout ça. Donc on serait des êtres manquants, là. Il nous manquerait un pénis à nous autres, les femmes. Mais vous dites que, en fait, on ne parle pas du désir d'enfant chez les hommes et du désir d'enfantement, en fait, surtout.
Oui, c'est pas...
C'est un vrai truc, ça ? Vraiment, vous y croyez ?
Ah oui, non, c'est pas que j'y crois, c'est eux qui le racontent. L'envie d'enfantement chez les hommes, c'est le pendant de ce qu'on a appelé l'envie de pénis chez les femmes. Moi, je ne l'appellerais pas comme ça. Hein. Je pense que à l'époque où la psychanalyse a posé ses bases, quand même, on était à la fin du 19e siècle, c'est un petit peu ancien. Hein. Les hommes avaient une puissance dans la société qui faisait que les femmes pouvaient avoir envie d'accéder à la même puissance.
Bien sûr,
hein, c'est juste ça, c'est pas une question de pénis. Le pénis n'est qu'un symbole, en fait. Et les hommes disent que l'enfantement, c'est une puissance incroyable. Quand ils parlent de ça, d'ailleurs, ils en parlent toujours avec énormément de respect, de tendresse. Il y a quelque chose de sacré chez les hommes face à l'enfantement, face au portage du bébé par les femmes. Ça n'est pas du tout méprisé par les hommes, ça. Alors, ils ne savent pas toujours y faire, et les institutions encore moins sur la grossesse et l'accouchement, mais l'envie de ce que peut faire l'autre sexe, c'est juste normal, parce que nous aurions tous envie d'être des êtres complets, et donc d'être à la fois femme et avec, de bénéficier de tous les attributs conférés par le monde et la société aux hommes, et d'être à la fois homme et de bénéficier de tous les attributs conférés par le monde, la société, la nature aux femmes.
Bah oui, mais ça me paraît désirable à moi. Enfin, je veux dire...
Mais c'est désirable. Je dis simplement qu'on n'en parle pas assez. On a analysé, et on l'a analysé sur un mode négatif, l'envie des femmes d'accéder à tous les attributs conférés au masculin dans la société. Et on n'a jamais suffisamment dit que les hommes avaient le même désir vis-à-vis des femmes et que ça vient se poser sur une autre puissance qui est la puissance de l'enfantement, de la grossesse et de l'enfantement.
Dans la rivalité des jeunes pères avec leurs enfants, vous citiez aussi des comportements comme des papas qui vont se mettre à jouer, à exciter les enfants juste avant de dormir, alors que ça va être l'heure de dormir. Donc dans un truc de rivalité avec la mère, en fait. Ou des parents, des pères qui font prendre des risques à leurs enfants. Par exemple, pas de casque à vélo, pas de ceinture, ce qui oblige la mère à intervenir.
Oui, parce qu'ils se mettent en position de se faire sermonner par la mère. Et donc, ils se mettent en position d'enfant.
Vous êtes un peu dur là avec des hommes, notamment la figure de l'homme-enfant. Vous dites qu'il y a des hommes qui sont décalés, qui sont hors réalité, qui sont infantiles, des pères qui aspirent tout l'espace mental de la mère, parce qu'en fait ils se mettent dans une position d'enfant qui se fait gronder, qui est, mais ils se mettent tout seuls dans cette position-là en agissant de façon immature.
Oui, mais c'est l'exemple de l'homme auquel il faut faire la liste des courses et qui part en course et qui rappelle en disant j'ai pas pris la liste. Là encore, ça ne sont pas des stratégies conscientes, volontaires, mais il y a un réflexe d'infantilisation chez certains hommes que les femmes ne supportent plus du tout.
Non, c'est infernal.
C'est-à-dire qu'elles ne veulent plus leur dire ce qu'elles ont à faire. Quand j'ai sorti « Les mères qui travaillent sont-elles coupables », donc on était en 2000, les hommes disaient « Les femmes veulent qu'on fasse les choses comme elles décident qu'on doit les faire.
Oui. »
Et on reprochait aux femmes de ne pas déléguer.
Uh-huh.
Cette question de déléguer, que les femmes délèguent une part de la charge des enfants aux hommes, est une absurdité. Elles n'ont rien à déléguer. Ils sont pères, elles sont mères, chacun assume
devrait prendre ses responsabilités,
sa place.
Bien sûr.
Aujourd'hui, où les hommes sont quand même plus là et plus près des enfants, les femmes disent « c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire ».
Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur toutes les façons dont les mères peuvent être des mauvaises mères, dont elles peuvent être maltraitantes, mal aimantes, castratrices, dominatrices, que sais-je. Enfin bon, voilà. En fait, on n'a pas trop critiqué les pères, je trouve, en psychanalyse et en psychologie. Et vous dites que les pères aussi peuvent être hostiles, que l'hostilité paternelle, ça existe. Comment elle s'exprime, cette hostilité ?
Ben, les relations parents-enfants sont des relations complexes. Et il peut y avoir la même nocivité dans une relation mère-enfant que dans une relation père-enfant, tout simplement. Mais il s'avère qu'on a observé à la loupe les relations mère-enfant bien plus qu'on a observé à la loupe les relations père-enfant. Quand on n'observe pas, on ne voit pas. La recherche ne constate que ce sur quoi elle cherche. Mmh. Mais là où elle ne cherche pas, elle ne constate pas.
Donc la psychanalyse et la psychologie ne sont pas intéressées tellement aux relations père-enfant.
C'est surtout qu'elles n'ont pas regardé les mêmes choses. Elles se sont intéressées aux relations père-enfant dans les rapports d'éducation. Tandis que pour les relations mère-enfant, elles se sont intéressées aux relations affectives. Donc plus aux mécanismes inconscients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment mieux étudié. Je dis simplement qu'il faut regarder avec le même sérieux certaines modalités de relations père-enfant qu'on a regardé avec sérieux, certaines modalités de relations mère-enfant qui peuvent être des relations pathogènes.
Est-ce qu'on peut se préparer mieux à la paternité ? Est-ce qu'on peut se préparer même tout court ?
Mais vous savez que, en fait, en France, il y a 1000 choses qui existent. Par exemple, il y a des tas de maternités où il y a des séances de préparation à l'accouchement qui sont ouvertes aux pères. Simplement, dans une salle où il y a 10 femmes, il y aura un homme, au mieux. Et ce n'est pas très facile d'être le seul homme dans cette salle. Donc, revenir la fois suivante, c'est compliqué. Il y a des tas d'actions, de soutien à la parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Elles sont toutes mixtes. En France, nos lois et nos dispositifs sont tous mixtes et égalitaires. Eh bien, ceux qui ont trait aux enfants, eh bien, ce sont les femmes qui s'en saisissent et pas les hommes. Ça fait question quand même. Il y a même dans les maternités des groupes de paroles de pères qui sont organisés. Et on s'aperçoit par exemple que lorsque ces groupes sont animés par un homme, pédiatre ou gynécologue ou psychologue, les pères y viennent plus facilement que s'ils sont animés par des femmes. Alors là, on va rejoindre d'autres préconisations pour changer les choses. Mais parmi les préconisations, par exemple, la mixité des professionnels qui entourent la naissance,
la petite enfance,
l'école, les milieux que fréquentent les enfants, renforcerait la disponibilité des hommes à s'impliquer. Hein. Les services dédiés à l'enfance sont essentiellement des services féminins et sont des services qui, d'une certaine manière, n'intègrent pas le fait que les deux parents travaillent. Donc, ce sont des services qui sont encore des services qui demandent, qui attendent des parents, et donc, c'est la plupart du temps les mères qui se retrouvent à le faire, de la disponibilité, du savoir-faire, etc. La préparation des gâteaux pour la fin d'année, les trois quarts du temps, on s'adresse aux femmes. Et puis, je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à ce que les entreprises, les employeurs, ne soient pas que dans une invocation ou des campagnes de communication sur la prise en compte de la parentalité dans le monde du travail, mais que les nécessités parentales soient prises en compte, pas seulement par les services RH, mais par les services opérationnels et dans l'organisation du travail et dans les systèmes de management.
Et ça, concrètement, ça voudrait dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dirigeant d'entreprise ou qu'on a des responsabilités ? Ça veut dire ne pas penser que les histoires de conciliation, vie professionnelle, vie familiale, ça concerne que les femmes, par exemple.
Ben voilà. L'articulation entre la vie de famille et la vie professionnelle, c'est un dossier qui doit être porté vers les hommes plus clairement.
Donc, je sais pas, j'imaginais un monde où dans une entreprise, ce serait vraiment bizarre, on regarderait vraiment bizarrement un père qui reste au travail alors que son enfant est malade, par exemple.
Oui, quand on sera arrivé à ça, c'est qu'on aura gagné les trois quarts du chemin.
Donc, il faut aussi que les entreprises prennent ça en compte, les politiques publiques, évidemment. Quels bénéfices personnels, psychologiques, psychiques aurait les pères à plus s'investir, en fait, à s'investir pleinement et de façon égalitaire dans la parentalité? À quoi ça sert, en fait? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils trouvent ça plus joyeux. Ils trouvent qu'ils sont plus joyeux. Ils se rendent compte de tout ce que peuvent apporter les enfants, finalement. Pas seulement quand ils les voient une demi-heure et qu'ils lisent l'histoire le soir. Hein.
Et qu'est-ce qu'ils loupent, alors, en ne s'investissant pas dans la paternité?
Ils disent qu'il y a des rituels. Quand ils ont, au sortir du confinement, par exemple, là, certains disent qu'ils avaient établi des rituels avec leurs enfants et que ces rituels leur manquent.
Vous pensez que là, les enfants, ils sont en manque de leur père?
On ne peut pas dire ça comme ça. Ce qui ne va pas pour les enfants, c'est quand on leur fait croire que le père doit être présent et qu'il ne l'est pas. Donc, c'est des promesses non tenues. Et ça, ce n'est pas très bon.
Donc, des promesses dans d'être là dans le quotidien?
Oui, d'être là dans le quotidien et de ne pas assurer en réalité.
Et ça, c'est dommageable pour avoir des enfants?
Oui, parce que comme les pères se veulent des pères modernes, avant-gardistes, égalitaires, ils font des tas de promesses à leurs enfants. Et c'est ces promesses-là non tenues qui pénalisent les enfants. Et comme les pères s'imaginent être des pères présents, eh bien, c'est ce hiatus qui ne va pas. C'est ça qui est difficile. On est dans une période où les hommes sont à mi-chemin. Et ça rend les choses compliquées. Je dis simplement qu'il leur reste quelques mètres à franchir et j'ai envie de les aider à les franchir, pour eux et pour les autres.
Mais donc, si je résume, c'est d'abord, pour franchir ces quelques mètres-là, c'est par exemple admettre qu'il s'agit de choisir, donc de renoncer, que parfois on ne va pas pouvoir avancer dans sa carrière, assurer au niveau professionnel si on veut vraiment être là pour ses enfants. Et c'est aussi prendre la décision, non, de s'investir réellement et de se demander à quoi ça ressemble, un véritable investissement.
Oui, mais c'est aussi être raisonnable. L'équilibre économique d'une famille est mieux garanti dans un couple biactif que dans un couple monoactif. Mettre tous ses œufs dans le même panier aujourd'hui, parce que ce surinvestissement professionnel des hommes, ça fait que les femmes, elles, vont être pénalisées dans leur engagement professionnel.
Bah oui, forcément, parce qu'il faut bien quelqu'un
pour s'occuper
des enfants.
Et donc, on fragilise la situation professionnelle des femmes. Les statistiques montrent bien que lorsqu'il y a deux revenus et qu'il y a un souci quelque part, eh bien, l'économie du foyer est mieux garantie. Donc, c'est aussi quelque chose de raisonnable que de faire en sorte que les mères puissent garder leur emploi, ne pas sortir de l'emploi quand elles ont des enfants. Et ça, c'est à la fois de la responsabilité des pères eux-mêmes et des politiques sociales et familiales
et
de l'emploi.
Et
oui, ils butent encore sur des écueils. Des écueils qu'ils doivent lever eux-mêmes, parce que malgré tout, qui est aux commandes sur l'élaboration des politiques publiques? Majoritairement encore des hommes. Qui est aux commandes dans les entreprises? Majoritairement des hommes. Hein. Donc ils peuvent utiliser les pouvoirs qu'ils ont pour faire avancer cette situation.
Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour terminer, qui est la question traditionnelle de cette émission. Je vous demande quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditrices.
Alors là, vous allez me trouver totalement paradoxale, mais je pense que c'est la Madonna del Prado, qui est cette peinture de Pietro della Francesca, où on voit une Vierge enceinte, et elle écarte les bras avec un immense manteau, et il y a toute une série de personnages sous ce manteau, et je me dis que c'est une image de la féminité ouverte et socialisée. Il y a de la place pour tous autour de l'enfant.
Et pas juste pour le père, la mère, ou juste la mère.
Oui.
En fait, il faut être beaucoup, beaucoup pour s'occuper des enfants.
Il faut être beaucoup à penser les besoins et les nécessités des enfants et à s'organiser partout où ils se trouvent pour qu'ils fassent de bonnes rencontres.
Super. Merci beaucoup à Sylviane Jeanpineau. Vous trouverez les références de son livre et des études que nous avons citées dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. J'ai un petit rajout à faire qui est que dans cette conversation, on s'est concentré sur les problèmes que pose l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale en fonction du genre.
Mais pour prolonger la réflexion, il faut aussi prendre en compte le rôle joué par les différences de classe sociale et ou de race. Pour prendre deux exemples typiques et opposés, la question de l'autonomie financière des femmes ne se pose pas du tout de la même façon si on est une femme blanche diplômée qui a la possibilité d'occuper un emploi agréable, intéressant, bien rémunéré, que si on est une femme noire précaire qui subit des agressions racistes dans un emploi pénible et mal payé. Et puis, il faut bien prendre en compte aussi le fait que dans un pays avec un fort taux de chômage, tout le monde n'a tout simplement pas la possibilité d'occuper un emploi rémunéré. Bref, c'est pas aussi simple que les femmes devraient avoir un emploi rémunéré, quoi qu'il leur en coûte, pour être indépendantes. Et pour en savoir plus, je vous renvoie vers deux ouvrages. Le premier, c'est « Pour un féminisme décolonial » de Françoise Vergès. Et le second, c'est « Féminisme pour les 99% », un manifeste de Cynthia Arruza, Titi Batacharia et Nancy Fraser. Je remercie ma productrice Camille Regache et Naomi Titi pour son aide. Thomas Appelé pour la prise de son, Solène Moulin pour la réalisation, parce que oui, les couilles sur la table, c'est un podcast produit par Binge Audio, ça veut dire qu'on est toute une équipe à le fabriquer. J'espère que cet épisode aura résonné avec votre propre vie. Nous, on est toujours curieux et curieuses de savoir de quelle manière. Donc vous pouvez nous écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Je promets pas de vous répondre tout de suite, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je lis tout et donc je vous lis. Merci beaucoup et à bientôt.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.